Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
À la veille de l'ouverture de la saison de ski 21-22, eh bien, un nouvel acteur de l'hôtellerie vient nous présenter ses 500 nouveaux recrutements dans quelques minutes. Il s'appelle Nicolas Chatillon. On retrouvera également dans cette émission Pauline Kaya, qui est directrice DG de Havas Paris People pour une enquête intéressante sur la crise sanitaire. La crise sanitaire, quel changement pour les salariés? Enfin, la start-up qui cartonne et qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir la porte-parole de Life Eyes. C'est comment aider à sauver des gens, une entreprise française qui vient de lever 4 millions d'euros et qui dispose d'une trentaine de postes à pourvoir.
BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Oui, il fallait prononcer Life As, Life Is. J'ai du mal avec l'anglais parfois. Life Is. Alors, tout de suite, l'entreprise qui recrute, eh bien, c'est un nouvel intervenant, un nouvel acteur de premier plan pour l'emploi dans les Alpes françaises. On est ravis de vous recevoir, Nicolas Chatillon. Vous êtes donc DG, c'est ça?
C'est ça. Merci, Alexandre, de nous recevoir.
Ben, avec grand plaisir.
Très heureux d'être là avec vous aujourd'hui.
Groupe hôtelier Les Étincelles, associé et cofondateur, vous allez nous en parler. 500 postes à pourvoir, mais j'ai envie de dire immédiatement, pratiquement.
Exactement.
La saison va démarrer. Donc c'est un plan énorme à la veille, je le disais, de l'ouverture de la saison de ski. Alors c'est dans trois stations, hein, deux stations, c'est ça pour l'instant.
C'est ça, c'est Tignes. Exactement. Ben, Les Étincelles, c'est un groupe que nous avons créé avec mon associé Garlin Chicherie il y a 3 ans maintenant. Hein, oui. On exploite des chalets, des résidences, des hôtels, 4 et 5 étoiles, donc dans les Alpes françaises. Hein, et effectivement, essentiellement aujourd'hui répartis sur Tignes et la Plagne, et un petit peu sur Val d'Isère.
Hein, voilà. Mais vous avez un projet beaucoup plus vaste, quoi, j'imagine.
On a un projet beaucoup plus ambitieux, c'est d'ouvrir 3 ou 4 autres stations supplémentaires dans les 5 prochaines années, hein, à la fois à l'Alpe d'Huez, à la fois aux Deux Alpes, aux Arcs, à la Rosière. Donc effectivement, sur les stations de haute altitude, hein, dans lesquelles on propose aujourd'hui ce plan de recrutement important.
Alors on va parler de ces 500 emplois que vous créez, qui sont à la fois permanents et saisonniers, bien sûr. Mais d'abord peut-être parler de votre entreprise. Vous dites ce groupe à 3 ans s'appelle Les Étincelles, c'est un joli nom, qui a été monté comment? Par qui?
Ben écoutez, c'est à la fois l'œuvre de Garlin Chicherie, mon associé, qui est un ancien champion du monde de ski, qui est implanté en Savoie depuis très longtemps. Moi, je viens du milieu bancaire et on a décidé tous les deux, il y a 5 ans maintenant, de lancer ce projet. Et puis on a fait des acquisitions, mais aussi des créations, hein, puisqu'on a créé des bâtiments pour lesquels on a eu des permis de construire. Et on a développé une offre, donc, dans le haut de gamme et le luxe, à destination à la fois d'une clientèle française, mais aussi d'une clientèle internationale. Donc avec un positionnement authentique, chic, et puis plusieurs marques que nous sommes en train de développer. Donc on a une marque dans les chalets de luxe, hein, on reçoit une clientèle étrangère de grand niveau.
Il y a un public pour ça.
Il y a un public pour ça.
D'ailleurs.
Exactement. Aujourd'hui, on peut dire que les attentes de la clientèle internationale en matière de standards s'est beaucoup élevé avec le temps. Il y a une montée en gamme, hein, comme on dit, des prestations et du service. Et donc, ce que nous proposons aujourd'hui, nous, c'est vraiment une expérience, hein, pendant la semaine où nos clients viennent chez nous, dans nos établissements, dans nos maisons. C'est vraiment une expérience de grande qualité où ils vont pouvoir aussi trouver le service, la tradition à la française du service et du réceptif.
Oui, j'ai lu, vous dites, votre projet. C'est construire l'économie de la montagne de demain, passe par un respect affirmé des conditions de vie de nos collaborateurs, parce qu'on va basculer bien sûr dans le recrutement, on est là pour vous aider,
bien sûr.
J'espère, à trouver ceux que vous recherchez, parce que vous avez une politique RH très affirmée, hein, très particulière.
C'est vrai.
Mais d'abord,
que...
si vous êtes d'accord, on va d'abord parler de ceux que vous recherchez. 500 postes, c'est pas mal. Qui recherchez-vous? J'imagine que ça va du... Allez-y.
Aujourd'hui, on a 2 registres sur lesquels on recrute beaucoup. Le premier, c'est tout ce qui est hébergement, hein, tout ce qui est autour des chambres,
oui.
Et donc tout ce qui est housekeeping, les femmes de chambre, le ménage, le personnel de ménage. Et puis le deuxième registre, c'est la restauration. Où là, sur la restauration, on cherche des chefs de rang,
chefs de cuisine,
notamment des chefs de cuisine, des commis, des serveurs, des gens qui vont travailler dans nos restaurants, dans tous les différents postes et qui vont finalement contribuer à la réussite de nos restaurants. On oublie souvent que quand on a un hôtel, un restaurant à la montagne, un hôtel, des chalets, des résidences à la montagne, il y a aussi la restauration. Il faut s'occuper des gens. Et donc nous, on a une quinzaine de restaurants à Tignes aujourd'hui, pour lesquels effectivement on recrute massivement. Alors sur les 500 personnes, on a déjà commencé, notre plan est déjà bien engagé. On a pu recruter presque, je dirais 350-400 personnes au moment où je vous parle. Oui. Donc nous cherchons toujours 100 à 150 personnes pour compléter nos équipes aujourd'hui sur ces deux thèmes, bien évidemment.
La réception, l'hôtellerie et la cuisine. Voilà,
c'est ça.
Restauration.
Réception et cuisine dans des postes où on cherche vraiment des gens avec un profil d'expérience.
Alors c'était la question que j'allais vous poser.
Exactement. C'est très important pour nous d'avoir des gens qui connaissent
leur métier
de saisonnier, qui ont une expérience. Donc il y a déjà une expérience acquise dans ce secteur, l'hôtellerie touristique, qui peut être dans le balnéaire, mais qui peut être aussi en montagne, qui connaissent la vie de saisonnier, qui sont des vies très engageantes. Il faut être mobilisé.
24/24 pratiquement.
Voilà, c'est ça. Alors pas 24/24 parce que naturellement il y a un travail, mais on vit sur place. Effectivement, ce sont des vies. On cherche des couples. Ouais. Souvent, c'est vrai que ce sont des choix de vie. Et il y a des couples qui viennent à la montagne. Des jeunes, beaucoup de jeunes. Nous, on veut des jeunes. Et la relation qu'on veut créer avec eux, c'est une relation sur le long terme. On souhaite qu'ils viennent chez nous pour travailler plusieurs années, qu'ils viennent et qu'ils reviennent chez nous. On souhaite les fidéliser. Et c'est le sens de la politique RH que vous indiquiez tout à l'heure en introduction. On veut construire une vraie politique RH et RSE autour de cette fidélisation de nos collaborateurs saisonniers avec des jeunes que l'on souhaite former. Et on met un vrai accent sur la formation aujourd'hui. On a un partenariat avec une école en Gironde, l'école Savignac, pour former nos jeunes à ces métiers de l'hôtellerie, au management de l'opérationnel finalement, des opérations qui font la réussite de nos restaurants tous les jours et de nos hôtels.
Alors vous recherchez aussi des marketeurs, des financiers, un financier ou des financiers, agents de réservation, chefs de chantier, architectes. Il y a les hommes et femmes de terrain, de proximité, mais il y a aussi des postes à pourvoir, j'imagine même de cadre certainement.
On a des postes de cadre, on a des postes dans tous les secteurs d'activité qui là sont moins conjoncturels avec la saison.
Bien sûr.
Le sont de manière générale, de par la croissance qui est la nôtre. Et ils sont là, ils sont ouverts. Les postes sont ouverts. Effectivement, dans tous les secteurs fonctionnels, de l'assistance et du support à l'exploitation.
Alors j'ai vu que vous allez veiller à ce que tous ceux qui vont travailler dans vos hôtels, dans vos établissements, soient logés localement, mais dans les meilleures conditions possibles.
Alors c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, la condition...
C'est important pour attirer les candidats.
Oui. C'est très important. C'est vraiment le point d'attention le plus significatif ou le plus stratégique dans le développement de notre groupe avec Garlin. Ce que l'on veut, c'est que les gens se sentent bien chez nous et qu'ils soient...
Tous logés sur place.
Bien logés. C'est pas que les gens
dans
c'est
les
la qualité de vie. C'est ce qui est important, c'est la qualité de vie en général. La qualité de vie tout au long du temps qu'ils vont passer avec nous, les 4 ou 5 mois de la saison d'hiver notamment. Où effectivement, pour le logement, et c'est un point fondamental et différenciant de notre groupe, nous souhaitons qu'à partir de cette année, tous les gens qui souhaitent embaucher dans nos établissements, dans nos 25 établissements, que ce soit nos hôtels, nos chalets ou nos résidences, puissent dormir sur place et soient logés sur place dans nos actifs.
Oui, vous dites que le bien-être des collaborateurs est aussi...
C'est fondamental. C'est à la fois une question de qualité du logement, sur laquelle on veut insister,
bien sûr.
Mais c'est aussi le fait que le logement soit sur place pour éviter qu'ils perdent du temps dans les transports, que ça leur occasionne des coûts aussi, naturellement, et que c'est vrai qu'en termes de confort de travail et de confort de vie, c'est mieux d'être sur place et d'être très bien logé.
J'avoue que c'est la première fois que j'entends cette approche-là en disant, parce que j'aime la montagne, j'y suis allé pour skier, mais souvent on voit des hommes et des femmes qui travaillent dans les établissements qui sont logés... ils sont la dernière roue du carrosse, quoi. Ils sont parfois mal logés, ils ont des horaires compliqués, donc là vous assurez qu'il y a tout un... C'est une nouvelle démarche finalement.
C'est une démarche totalement nouvelle. Elle est transformante pour nous. Elle est transformante parce qu'effectivement on va investir massivement dans la construction de nouveaux logements saisonniers et dans tous les nouveaux actifs qui sont construits à partir d'aujourd'hui dans notre groupe, dans les stations que j'évoquais tout à l'heure. Je prends par exemple l'exemple de l'Alpe d'Huez ou de la Plagne. On construit un projet, le Chalet des Moutons, qui va sortir en 2023. L'Alpe d'Huez en 2024, on a plusieurs projets. La Rosière aussi. On veut qu'à chaque fois, à l'intérieur de notre établissement, il y ait le logement de tous nos saisonniers.
D'accord.
Et puis qu'ils puissent s'y retrouver et qu'ils puissent avoir aussi des espaces de vie qui soient adaptés pour eux, qu'ils puissent aussi prendre du temps pour eux. Ils ont des moments de repos.
Bien sûr, ouais.
On leur fournit déjà le matériel de ski, gratuitement. On leur donne un certain nombre d'avantages dans le respect de la loi et les règles des règles sociales. Et c'est important qu'ils puissent être bien et qu'ils puissent vivre leur vie décemment. C'est aussi le renouveau et l'avenir de notre métier à la montagne, d'employeurs de collaborateurs saisonniers.
Et pour accompagner la montée en puissance de votre entreprise, vous avez prévu, j'ai vu les chiffres. Aujourd'hui, vous allez passer de 50 à 150 collaborateurs, c'est permanent, et de 500 à 2000 saisonniers logés au plus près du lieu de travail dans un cadre de vie amélioré, c'est ce que vous affirmez. assez rapidement.
Et à l'horizon 2025-2026.
On a compris les enjeux et les intérêts de vous rejoindre. Mmh. Maintenant, est-ce qu'il y a un point commun dans les profils que vous recherchez, dans les valeurs à partager, j'ai envie de dire?
Oui, je pense qu'on cherche des profils, des gens qui sont dynamiques, qui ont une empathie, oui, qui ont une vraie connaissance de ce qu'est le service au client. Nous, on veut vraiment dans notre offre qu'on passe de l'approche produit à l'approche client. Mmh. Et ça se traduit par un certain nombre de choses dans la stratégie, mais aussi par nos collaborateurs qui sont tous des ambassadeurs. Hein, des ambassadeurs à leur niveau, au quotidien finalement, hein, face à nos clients.
Encore une question, mais vous allez rester dans l'émission et vous pourrez réagir. Pourquoi la montagne? Pourquoi pas la Côte d'Azur? Pourquoi pas l'étranger? Pourquoi? Vous êtes d'origine savoyarde ou...
Alors, je ne suis pas d'origine savoyarde, mais j'ai travaillé en Savoie et en Rhône-Alpes quand j'étais, oui, banquier, donc il y a maintenant 10 ans, voilà, dans un établissement bien connu, oui, la Caisse d'Épargne. Et donc, c'est vrai qu'avec Garland, on avait cette passion du ski et de la montagne.
Ah, d'accord, il y a quand même quelques.
Après, on ne préjuge pas de l'international, naturellement, puisqu'on réfléchit, à ce métier aussi.
L'appel est lancé. Nicolas Châtillon, directeur général du groupe hôtelier Les Étincelles, associé et cofondateur. Bravo, d'abord, il faut du courage pour se lancer aujourd'hui dans la création d'un groupe hôtelier. Il y a beaucoup de monde. Coup de chapeau, 500 postes à pourvoir. La porte est au départ, 150 là, tout de suite. Attendu. La porte est grande ouverte, j'espère que ça va vous aider. Vous restez avec nous.
Merci, Alexandre.
On va passer à la rubrique décryptage. La crise du Covid, bien sûr, et les bouleversements, ils sont là, malgré tout, côté entreprise et côté salarié. Eh bien, Havas Paris People a mené une enquête très intéressante, vous allez découvrir ça dans quelques instants, avec Pauline Kaya, qui est la directrice générale de Havas Paris People. Je l'ai dit dans le bon ordre. C'est tout de suite, décryptage.
BFM Business, le club média RH. Décryptage RH.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir.
Merci.
Alors vous
beaucoup.
Êtes Havas, un mot quand même d'abord avant d'aller dans l'enquête. Havas Paris People, quand on emploie le mot people, mm-hmm, quand on entend le mot people, on pense aux personnalités, aux artistes, oui, ceux qu'on appelle les influenceurs ou les influenceuses.
Alors pas du tout.
C'est n'influence ni closer, personne d'ailleurs, mais c'est pas grave.
Ni closer ni voici, nous voilà. On s'occupe des collaborateurs. Donc voilà, toute la matière qui s'adresse aux collaborateurs. Donc c'est quatre activités principales.
D'accord.
La marque employeur, attirer, oui, fidéliser les talents, tout ce qui est accompagnement de la culture d'entreprise, lors de fusion, lors de restructuration, ou lors de changement de gouvernance également, tout ce qui est communication interne, les systèmes d'information, comment je m'assure que mon collaborateur capte bien le message de l'entreprise et comprend bien la stratégie de l'entreprise. Et puis tout ce qui est employé advocacy, donc c'est,
d'accord,
tout ce qui est l'engagement des collaborateurs dans la mission de l'entreprise.
Ça représente, au niveau du groupe Havas, mm-hmm, on parle de l'agence, la grande agence.
Bien sûr.
Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses.
Alors on est une petite équipe, mais en cours de développement et de construction. On est une quinzaine aujourd'hui.
Voilà, parce que vous étiez, enfin, cette filiale était présente, la crise du Covid est passée par là, et là, le,
exactement,
groupe a décidé de relancer la...
Exactement, parce que la crise a complètement bouleversé le rapport des collaborateurs à l'entreprise, et nos clients ont une vraie prise de conscience, parce que si on se reprojette 18 mois en arrière,
vous avez raison,
le 16 février 2020, on se retrouve tous confinés, la moitié des entreprises doivent mettre en place le télétravail, et sans le collaborateur, les organisations auraient été bloquées, sans l'adaptabilité du collaborateur, son adaptation, l'adaptation des organisations également, il n'y aurait pas eu de délivrance de la promesse client.
J'aime bien cette formule que vous annoncez, mettre la promesse collaborateur au même niveau que la promesse client.
C'est exactement
plus une option.
Ce que fait Monsieur Châtillon.
Voilà. C'est plus une option, mais un impératif pour les entreprises et les leaders.
Pour ceux qui veulent faire de la croissance. Nous,
voilà.
c'est notre conviction.
C'est le premier capital des entreprises, les collaborateurs.
À un moment donné, qui délivre la promesse client?
Voilà,
c'est le collaborateur.
Vous êtes d'accord?
C'est fondamental.
C'est ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au contact.
Ceux qui font la réussite des entreprises au quotidien.
Plus que d'un baby-foot, c'est de sens que le collaborateur a besoin. C'est qu'un programme bien-être, plus qu'un programme bien-être, c'est un sentiment d'utilité
pour
le collaborateur. Alors, vous avez mené une enquête, vous, à votre niveau, Havas Paris People, People Paris. Vous avez cette branche RH, donc votre agence. Après la crise sanitaire, quel changement dans le rapport entreprise-salarié? On va les décrypter avec nous.
Bien sûr.
Parce que ça nous passionne, nous, dans notre sujet à nous. On a envie d'en savoir plus, tout de suite.
Trois grands enseignements structurants sur cette étude. Un, l'entreprise devient une valeur refuge. Jusqu'à présent, quand vous aviez crise, la valeur refuge était soit la famille, soit l'État. Mmh. Et on voit que dans cette crise, l'entreprise a été à la hauteur dans l'accompagnement des collaborateurs. Je pense notamment à ceux qui ont dû mettre en place le chômage partiel. Beaucoup d'entreprises ont complété les 80% versés par l'État. Ouais. Il y a eu un accompagnement plus fort dans le bien-être et la santé mentale des collaborateurs par l'entreprise pendant cette période. Donc, grand enseignement. L'entreprise,
donc ça a modifié,
agent de confiance.
Ça a modifié, première réponse, c'est que ça a modifié
exactement,
ce que dit votre
exactement.
Enquête.
Jusqu'à présent, deux valeurs refuges et l'entreprise devient la troisième valeur refuge. Le deuxième enseignement, c'est une crise qui révèle des nouveaux défis, et des nouveaux défis vis-à-vis notamment de tout ce qui est la communauté managériale. Les managers qui étaient un peu écrasés avant la crise dans des organisations qui se mettent en horizontale, ont retrouvé leur sentiment d'utilité et leur proximité avec leur N-1. Et donc, c'est une vraie opportunité pour les organisations aujourd'hui de reprendre en main leur communication et leur lien avec leur communauté managériale qui ont joué le jeu pendant cette crise. Et le dernier enseignement, c'est évidemment l'accélération des mutations. Là où on avait des prémices de télétravail avant la crise, on voit que toutes les formes de travail sont devenues hybrides. On voit que tout ce qui est travail nomade, à moitié dans l'entreprise, à moitié à la maison, ou même dans des tiers-lieux, est devenu la nouvelle commodité.
74% des salariés ont le sentiment que la crise renforce la capacité de leur entreprise à faire face aux grands défis de demain. C'est encourageant.
C'est complètement encourageant, et surtout ça révèle...
On ne pourrait pas s'y attendre a priori.
Non, ça révèle que le collaborateur est aussi prêt à s'engager dans son entreprise si son entreprise est engagée. Et c'est là où votre rapport et votre politique RH est assez intéressante, parce que vous mettez en place une promesse client, mais il y a une promesse collaborateur derrière, et donc vous cherchez au-delà des collaborateurs, vous cherchez des engagés aujourd'hui.
62% des salariés font davantage confiance aux entreprises qu'avant pour relever les grands défis. Le besoin de resserrer le pacte dans l'entreprise, c'est ce qui ressort aussi, un management à repenser.
Alors ça, Alexandre, c'est très intéressant sur le nouveau pacte. On est dans un pacte liberté-confiance, oui. Ce qu'on n'avait pas forcément avant dans des modèles un peu plus descendants. Mais on est aussi dans un pacte où on a ressaisi l'importance du lien. Donc en fait, ça sera ni comme avant, ni totalement en télétravail. Ça sera vraiment une nouvelle forme hybride de mix à trouver entre les collaborateurs et l'organisation, oui. Et les gouvernants.
J'ai vu que vous tirez comme conclusion également que la révolution des modes de travail est d'ores et déjà intériorisée. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ce que ça veut dire, c'est que là où avant on devait mettre en place, enfin nous on mettait beaucoup en place des méthodologies pour faire accepter le changement, etc. On a vu cette adaptabilité vraiment s'effectuer du jour au lendemain. Et donc on a moins besoin de faire d'accompagnement de changement pour lever les freins. C'est-à-dire que la transformation et l'adaptation est devenue quelque chose de permanent. C'est ce qu'on appelle la transformation permanente. Ça a été vraiment intégré par les collaborateurs.
Alors, il y a un enseignement total. Je vais vous distribuer l'enquête en question. C'est fabuleux, parce que vous êtes allé très loin dans l'enquête. Hein.
Oui.
C'est très pointu.
C'est une enquête qu'on a fait avec CSA, effectivement, et on va la refaire en janvier, en fait, pour voir ce qu'il en est.
Encore deux choses qui m'ont frappé. 58% des managers ont vu leur rôle et leur fonction changer. 64% de ceux qui bénéficient de télétravail. Et puis, j'ai noté aussi, ce que ça fait beaucoup de chiffres, mais ils sont révélateurs. 62% des salariés pensent que le télétravail va s'imposer durablement.
Ouais.
C'est une question que tout le monde se pose.
C'est, disons que...
C'est pas une majorité enfin, énorme, mais 62%, c'est quand même un basculement.
C'est quand même un basculement. Et puis, tout le monde a réadapté sa vie et a... Voilà, à moduler sa vie pendant cette crise.
Que le bureau ne sera plus le seul lieu de travail.
C'est plus le seul lieu de travail. Alors, il y avait des entreprises qui étaient pionnières en la matière. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté nomade ou le côté télétravail. On ne sera pas dans du tout au tout. On sera dans quelque chose d'hybride, et à chaque organisation de trouver son modus operandi. Mais je souligne aussi que dans cette étude, il y a l'importance du lien qui est souligné, et donc ça ne sera pas non plus un tout télétravail où chacun est dans son
Et le rapport au management a changé.
Et le rapport au manager a changé, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les managers où c'était un rôle plus désiré, plus désirable non plus, où on pensait plus que pour réussir sa carrière il fallait devenir manager, et là on a un petit retour en force du manager, et moi c'est
Vous êtes d'accord,
que
je me tourne vers Nicolas Chatillon.
Je ne peux être que d'accord, à la fois sur le sujet de l'adaptation, sur clairement nous dans notre industrie, dans notre notre métier d'hôtelier de montagne, on a été mis à l'épreuve l'année dernière, hein, à travers les confinements successifs, les difficultés de préparation de la saison qui finalement n'a pas eu lieu, hein, puisqu'on a eu une saison blanche.
Il y a eu deux saisons qui ont été gâchées.
Deux saisons gâchées, une qui l'a vraiment été au sens où on s'était préparé à ouvrir. Hein, on avait pris toutes nos dispositions avec les élus, avec la préfecture, avec on s'était vraiment préparé. Et au dernier moment, on n'a pas pu ouvrir. Et donc c'est vrai que pour nos équipes, il y a eu aussi un peu un sentiment de frustration, qui était une réalité. Mais ils ont su s'adapter. On en a profité pour travailler nos fondamentaux en attendant que ça revienne et on l'a fait aujourd'hui. Et sur l'autre sujet, je crois que le manager aujourd'hui, nous les managers d'hôtels, hein, nos managers d'hôtels, on en a une dizaine, ils sont très engagés au quotidien pour faire réussir nos entreprises, hein, dans chaque établissement, dans chaque site. Et nous, on a beaucoup décentralisé aussi les responsabilités, on a beaucoup délégué, on a revu nos schémas délégataires. Hein, c'est ce que vous dites tout à l'heure, ça le reflète bien dans notre organisation. Et puis notre directeur des opérations, Guillaume Bott, aussi a mis en place une politique dans ce sens. Et je pense qu'elle portera ses fruits.
Alors, je vous remercie de... Vous allez pouvoir continuer à témoigner ou apporter votre commentaire sur le troisième sujet qui est le nôtre, qui est la start-up qui cartonne et qui recrute. Vous savez ce que c'est qu'un défibrillateur ? Oui, j'imagine. Oui. Voilà. Eh bien, je suis content de vous annoncer qu'en fait, le premier défibrillateur pour les particuliers est français. Il est fabriqué en France. La société s'appelle Life Is. Tout à l'heure, j'ai dit Life As. Ça, c'est un français. Life Is, vous avez pris un anglais. On va découvrir ça tout de suite avec Andreas Chapuis, la DRH de cette jeune entreprise. Voilà, décryptage.
BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute.
Décryptage est plutôt découverte avec vous. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, vous avez mis un beau t-shirt avec un pull avec votre nom, comme ça on voit bien le nom de la boîte. Vous avez raison. Alors, vous êtes à l'origine, le produit s'appelle Clark.
C'est ça.
C'est ça, comme le prénom Clark. C'est un prénom Clark.
C'est un prénom, ça fait notamment référence à Clark Kent, Superman.
Ouais. Exact.
Avec l'idée que derrière tout homme lambda, entre guillemets, on peut devenir un super-héros en sauvant une vie.
Voilà, donc racontez-nous l'histoire de cette start-up. Elle a été créée il y a combien de temps ? J'ai plein de questions.
Oui, ça
marche. Date de création ?
Lifeis a été créée en 2015, donc d'accord. Ça fait 6 ans, par 3 cofondateurs qui viennent initialement du monde des pacemakers et du secteur médical.
Ah, ils viennent quand même de cet univers.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est 35 collaborateurs et la mission de Lifeis, elle est simple, c'est de donner à tous le pouvoir de sauver des vies face aux arrêts cardiaques.
Alors, vous nous avez amené votre fameux défibrillateur.
J'ai amené Clark.
Je répète, qui est français, qui a été fait en France par des chercheurs et des inventeurs, qui est déposé, ce système.
Alors, Clark, on l'a entièrement conçu de A à Z dans la boîte par 5 ans de recherche et développement. On a obtenu notre marquage CE, nous, en mars 2020. Donc, le marquage CE nous a donné l'autorisation de production et de commercialiser le défibrillateur sur le marché.
Vous vous adressez comment aux particuliers, puisque c'est pour les particuliers ? Vous avez un réseau de commerciaux ?
Alors, il y a deux leviers. Effectivement, la plupart de nos ventes, ou en tout cas de l'approche particulière, se passe beaucoup sur Internet, notre site, Facebook, Google, etc. En fait, aujourd'hui, Clark, il s'adresse aussi bien en particulier. Donc ça, c'est la nouveauté et on révolutionne, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui peut avoir un défibrillateur à domicile. Mais on équipe aussi des entreprises
bien sûr.
Tout secteur, toute taille, tout type d'activité,
oui, entreprises, lieux publics, mairies, la poste,
les propriétés, etc.
Les hôtels.
Les établissements recevant du public, l'hôtellerie notamment.
Hein. Exactement. Donc on peut en avoir un dans chaque chambre d'hôtel de chez Monsieur Châtillon.
Exactement. Il y a notamment une loi qui oblige... Donc des ERP, donc des établissements recevant du public, qui sont des hôtels, des restaurants, mais aussi des magasins, etc., tous les lieux de passage, qui obligent donc ces lieux-là à s'équiper.
Pardon, mais Andreas, mais il faut une formation pour utiliser un défibrillateur.
Alors, Clark, on l'a retravaillé par rapport à ce qui existe sur le marché à 3 niveaux. Donc déjà, je vous le montre.
Allez-y, montrez-le nous.
Il est petit, léger, il fait 1,3 kg, et surtout, il faut comprendre qu'il est hyper simple d'utilisation.
Ah oui.
Ok.
Ah oui, d'accord.
Donc, on a pour coutume de dire qu'un enfant de 10 ans, il peut s'en servir, et c'est vrai. En fait, il faut s'imaginer qu'à partir du moment où il est mis en route, il y a un guidage vocal de A à Z qui vous explique toute la démarche à suivre face à un arrêt cardiaque. En plus de
Donc, c'est un marché important, vous l'avez calculé, j'imagine.
Ouais. Ouais. Je termine juste là-dessus pour l'offre de formation. Ouais. En plus de ça, effectivement, on ne s'arrête pas à uniquement équiper des entreprises ou des domiciles, mais on propose de la formation digitale et physique.
Alors, on va parler au sujet qui est le nôtre, c'est le recrutement.
Ouais.
Vous avez levé 4 millions d'euros, c'est ça? J'ai vu un petit communiqué qui vient de passer.
On a levé 4 millions d'euros.
Pas mal. Bon, c'est j'imagine bien. Que ça va rassurer ceux que vous avez envie de draguer, de faire venir dans l'entreprise, d'attirer dans l'entreprise pour venir travailler. C'est rassurant que vous avez des sous pour les payer. En partie, bien sûr, j'imagine que ça sert aussi à ça. Alors, qui recherchez-vous? Combien de postes à pourvoir? C'est une trentaine, c'est ça, non?
Alors, effectivement, on est 35 aujourd'hui. On vise une trentaine de postes, donc à doubler.
Donc, doubler l'effectif.
D'ici à peu près un an.
D'accord.
Pour résumer, il y a tous les pôles qui sont concernés. La levée de fonds, elle nous sert principalement pour aider ce recrutement-là. Sur le côté innovation, sales, marketing, pour pousser la croissance en France, mais aussi aller chercher les marchés européens, donc s'ouvrir à l'international.
Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un responsable international qui est recherché, des managers, des ingénieurs et des commerciaux, toujours pour être à la pointe, j'imagine, de l'innovation. Le point commun entre tous les profils que vous recherchez, c'est quoi? Il faut avoir... un souci de l'autre hein, pour travailler dans, ouais.
Le
défibrillateur.
Le sens qu'on veut donner à son travail, le sens professionnel. Voilà, Life is, on est là pour sauver des vies, pour avoir un impact sociétal. Et donc, tous les collaborateurs chez nous sont à 100% dans cette mission et sont motivés aussi pour...
J'imagine qu'ils sont aussi formés à l'utilisation du défibrillateur.
Oui, sur l'onboarding, effectivement.
Vous leur en offrez un, chacun? Ils peuvent en avoir un? Non, peut-être pas. Il faut d'abord les vendre.
C'est ça.
J'espère qu'on va pouvoir vous donner un coup de pouce. Voilà, on est pratiquement à la fin de cette émission. On est ravis de vous avoir reçu. On est ravis d'avoir reçu tout de suite Pauline Kaya, qui est directrice générale de Havas Paris People. C'est dans ce sens-là, je me suis pas trompé. Merci Nicolas Chatillon de votre intervention. Étincelle, ce groupe dynamique, formidable français, qui dispose de 150 postes à pourvoir immédiatement dans les stations de ski. Voilà, je vais être en retard. Salut, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain. Salut.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.